Francis Coppola, prix Lumière 2019.
Thank you so much.
Merci beaucoup. Thank you. Merci. Merci pour tout. Thank you. Well, tonight that I have felt and are very much present here in Lyon. And ironically, they're the three things
c'est trois choses qui manquent cruellement dans le monde que nous voyons tous les jours, qui se rappellent à notre souvenir tous les jours dans les informations. Ces trois choses, je les ai vues, ressenties très fortement ici à Lyon. C'est la convivialité, l'enthousiasme et la célébration. Donc merci de m'avoir fait sentir ces trois sentiments ce soir.
Ah, ils vont se multiplier.
Chut, chut, chut. Venez, on va se mettre en retard pour l'émission.
Ne fais pas de bruit.
On a tout vous.
En 25 ans d'émission, je n'ai jamais raté une. J'ai jamais raté un rendez-vous avec mes auditeurs.
Say it again.
On a tout vous. Now, go away now.
Allez, action.
Action, pourquoi faire?
Pour son 10e anniversaire, le Festival Lumière à Lyon s'est offert à un géant américain, Francis Ford Coppola, qui a reçu hier soir le prix Lumière. Et nous, ce matin, en direct et en public, nous recevons le prix Lumière de demain, un cinéaste actuel et déjà majeur, Palme d'Or 2019, avec Parasite, Bong Joon-ho. Bonjour tout le monde, bonjour le public lyonnais. Et salut Laurent.
Bonjour Christine, bienvenue à Lyon, à toutes et à tous.
Première Palme d'Or sud-coréenne de toute l'histoire du Festival de Cannes, l'année justement où la Corée fête son centenaire du cinéma. Quelle belle simultanéité. Bonjour Bong Joon-ho.
Annyeonghaseyo. Bonjour.
Bonjour.
Et bienvenue à votre traductrice Ye Jin. Vous nous accordez ce matin ce moment précieux avant d'aller présenter à 10h30 Okja au public lyonnais. Le Festival Lumière qui vous offre une rétrospective complète associée à une carte blanche. Après vous, sur ce plateau, quatre réalisateurs français vous succéderont. Delphine Glaise, Bertrand Tavernier, Robin Campillo, Tony Gatliff et en guest star Thierry Frémaux. Des réalisateurs, et c'est le principe du Festival Lumière, venus présenter d'autres films, d'autres cinéastes, des films du patrimoine. C'est le menu du jour, en direct de l'Institut Lumière, rue du premier film. C'est parti.
Revient à
Bong Joon-ho. Merci.
Je suis toujours très inspiré par le cinéma français. Je tiens à remercier en fait les deux grands réalisateurs français qui sont Clouzot et Claude Chabrol.
La remise à Cannes cette année de votre palme, Bong Joon-ho, une palme accueillie à l'unanimité. Jury, critique, public en France, 1 700 000 entrées. Est-ce que c'est presque troublant de plaire à tout le monde ?
Oui, je suis un peu inquiet, mais en même temps, c'est quand même quelque chose de bien, donc je ne pense pas que ça me. J'aurai encore ça à nouveau. Donc, mais c'est vrai que pendant le tournage, j'avais beaucoup d'inquiétudes, je ne savais pas du tout que ça allait marcher, que je recevrais un prix. Donc, bien sûr, c'est quelque chose de bien, je suis heureux.
Vous disiez que personne ne croyait à ce film Parasite au début.
Oui,
en fait, il y avait beaucoup de gens qui étaient inquiets.
Mais pour
mon équipe, mes acteurs, tout le monde aimait le scénario et donc on a fait de notre mieux pour faire le film. Mais pour les gens qui étaient occupés du marketing, en fait, ils ne savaient pas trop comment s'y prendre parce que rien que le titre Parasite, en fait, les gens n'étaient pas trop sûrs que ça allait marcher. Ils disaient que le titre était quand même quelque chose qui faisait peur. Et puis, il y a des gens aussi qui pensent que c'était un film de science-fiction. Film d'horreur.
Vous voyagez beaucoup avec ce film, mais vous vous rendez compte que tous les publics rient au même moment. Ça veut dire que votre film est universel. Le propos.
Oui, pas que en Corée. Dans tous les pays, en fait, c'est la même réaction. En Allemagne, en Australie, donc j'ai fait tous ces pays avant de venir ici à Lyon, et je me demandais en fait pourquoi est-ce que c'est la même réaction partout. C'est parce qu'en fait, ce n'est pas, on n'est pas dans des pays différents. En fait, on habite tous dans le même pays, en fait, qui s'appelle le capitalisme, parce que bon, en même temps, ça raconte une histoire entre les riches et les pauvres, donc on a tous le même sentiment, on ressent la même chose.
Et c'est aussi une nouvelle variation pour vous sur le thème de la famille. Décidément, c'est un thème qui vous est cher et vous abordez sous différents angles.
Oui, en fait, quand je présentais le film Mother, je disais en fait au public, je suis sûre qu'il y a beaucoup de mères dans la salle, donc tout le monde hochait la tête, et on est tous en fait le fils ou la fille de nos parents, donc on s'y retrouve tous. La famille, c'est quelque chose que l'on connaît tous.
La famille et les clivages sociaux très présents dans votre pays.
Bon,
je ne fais pas absolument tout, je ne m'efforce pas de faire des films sur le but des classes toute ma vie, je ne fais pas des films de propagande, je n'agite pas mon drapeau, mais je veux juste faire un film en fait sur l'humain, sur les êtres humains qui m'entourent, en fait, c'est ça qui m'intéresse. Mais notre vie quotidienne, finalement, est liée aussi à la lutte des classes. On voit autour de nous, enfin, on n'en parle pas, mais on les voit autour de nous. Quand des gens nous approchent, on regarde, on se dit, tiens, quel sac, son sac coûte combien, c'est quoi sa voiture. Bon, on n'en parle pas, mais on les voit, en fait. Donc, je pense que tout ça, finalement, est dans notre vie. Ça fait partie de notre vie et on n'y peut rien.
C'est quand même particulier d'un pays, d'habiter un pays coupé en deux, et ça imprime forcément votre façon de faire des films, Bon Joon-ho.
Ça fait longtemps que le pays est divisé en deux et il y a beaucoup de familles séparées. Même ma mère, en fait, sa grande sœur est en Corée du Nord, donc ce sont des familles séparées. Ces familles ne peuvent pas se voir. Donc il y a toujours une sorte de manque, il y a quelque chose qui fait qu'il y a un manque dans la vie de tout le monde. Et parfois, on ne s'en rend même pas compte, en fait, qu'il y a ce manque. Et c'est ce côté un peu anormal. Et on a l'impression qu'on essaie de faire que c'est normal, alors que c'est anormal, et on vit ça tous les jours. Donc, c'est quelque chose d'assez spécial, disons, qu'on a dans notre vie courante.
Est-ce que votre amour du film de genre vient pas de petit quand vous regardiez les films de Sam Peckinpah, notamment ? D'ailleurs, à cette époque-là, les films étaient censurés, et il paraît que vous vous amusiez à essayer de trouver les scènes qui avaient été retirées, j'imagine, les scènes ultra-violentes.
Oui, en fait, il n'y avait pas Internet quand j'étais petit. Il n'y avait pas de DVD non plus. Il n'y avait pas non plus de cinémathèque. Donc, tous les films, en fait, je les voyais à la télé. En fait, c'était des classiques qui étaient montrés dimanche après-midi. Et donc, comme c'était la télévision publique, il y avait énormément de scènes coupées. Et donc, je voyais beaucoup de films de Sam Peckinpah et de Brian De Palma. J'étais pas sûre, mais j'étais persuadée qu'il y avait en tout cas une scène entre deux plans. Je me disais, il y a quelque chose qui manque. Et je me disais, tiens, ça doit être ça. Et je me disais, c'est sûrement, il doit y avoir une scène de meurtre, mais on voyait juste le cadavre. Et j'étais persuadée qu'il y avait quelque chose au milieu qui manquait. Donc je commençais un peu à réfléchir, à imaginer ces scènes-là, toute seule. Et après, une fois adulte, j'ai commencé à regarder les films donc non coupés. Effectivement, c'était très différent.
C'est pour ça que vous avez fait du cinéma pour faire les scènes qui n'étaient pas tournées.
En fait, quand j'avais 7 ans, j'ai vu Le Salaire de la peur de Clouseau. Donc il y a beaucoup de gens qui me ressemblent dans ma génération, mais c'était quelque chose d'assez incroyable. Il y a la jambe de Charles Vanel qui se fait écraser par le camion, et c'était vraiment un grand traumatisme cinématographique. Il y a la nitroglycérine, à chaque fois on se dit, alors on prie pour pas qu'elle explose. Mais j'étais encore gamin, donc pour la première fois, je me demandais, mais qui est derrière tout ça? Qui a fait tout ça? Qui est derrière la caméra? Donc je pense que oui, c'était en tout cas une des fois enfin, où je me suis dit qu'il fallait que je devienne réalisateur.
Alfred Hitchcock disait, j'aime filmer une scène de meurtre comme une scène d'amour, et une scène d'amour comme une scène de meurtre. J'ai l'impression, vous, que c'est pareil. Vous aimez mélanger, casser les genres à l'intérieur du genre et à l'intérieur du même film.
Oui, je suis en train de faire des choses.
En fait, j'aime bien les gens qui ont l'air de ne jamais vouloir commettre de meurtre. Comme ça, une ambiance où justement il n'y aurait jamais un meurtre qui serait commis. Et j'aime bien justement le fait que ça casse ces codes-là et que tout d'un coup on voit un meurtre. Même dans Memories of Murder, vous voyez, on a un énorme champ, il y a des enfants comme ça qui courent, qui s'amusent, et tout d'un coup, il y a une caméra qui descend à environ 30 cm, et tout de suite, on voit un cadavre, des insectes comme ça qui couvrent le cadavre. Et voilà, c'est une situation, c'est un élément dans ce paysage. Et effectivement, je pense que Hitchcock aussi avait fait pas mal de mises en scène comme ça, c'est-à-dire qu'au lieu de se concentrer sur les ruelles un peu sombres, il y avait des meurtres comme ça en plein soleil, donc c'était beaucoup plus intéressant. Et donc c'est ce qu'il avait dit, et donc j'ai voulu l'appliquer aussi dans mes films.
La vie, la vraie vie, a créé un épilogue à votre film Memories of Murder, puisque le serial killer a été retrouvé. Mais ce qui est fou, est-ce que ça vous a pas aussi troublé à l'époque de penser que cet homme-là aurait pu voir le film Memories of Murder?
Je
pense que dans le public, il y a des gens qui ne sont pas au courant, mais en fait, oui, le coupable a été arrêté il y a 4 semaines. Heureusement, en fait, il était déjà en prison. Ça faisait 24 ans qu'il était emprisonné pour un autre meurtre. Donc on a eu de la chance, mais en prison, apparemment, il aurait vu Memories of Murder 3 fois, parce que c'est un co-détenu en fait qui a témoigné, donc je ne sais pas à quel point c'est vrai, mais en tout cas, effectivement, c'est un peu bizarre pour moi, parce qu'il regarde en fait ce qu'il a fait lui-même, quoi, finalement. Donc, pour quelqu'un comme réalisateur, effectivement, c'est quelque chose de très complexe, je ne saurais pas le décrire, mon sentiment.
Mais l'important pour un réalisateur, ce n'est pas de trouver le criminel, c'est de le chercher.
Oui, tout à fait, le processus de recherche. Et puis, on a tous l'envie, en fait, de capturer le coupable. Donc, c'est ce sentiment qui est là, en fait, la grande question de ce film, c'était pourquoi n'a-t-on pas pu arrêter ce coupable? C'est ça qui m'a guidée. C'est pas parce que c'est un génie du mal, c'est juste parce que c'était les années 80 et que c'était une période assez sombre. On était un peu impuissant. Donc, ça nous fait rappeler un peu cette période-là pour nous. Ça ne parle pas que justement d'un crime, d'un tueur en série. Ça montre à quel point en fait la vie était difficile à l'époque.
En voyant le public ici, j'ai l'impression que comme Tarantino, vous avez rajeuni le public. Je voyais le public à votre masterclass, à votre conversation. Vous avez aussi ce sentiment-là de rajeunir une audience?
Chaque pays en fait a un peu sa tranche d'âge qui va au cinéma, donc il y a un peu quelques différences selon les pays. Mais j'aimerais être aimé en tout cas du plus petit gamin jusqu'à la plus vieille grand-mère.
Vous êtes en lice pour les prochains Oscars. Est-ce que c'est important pour vous cette reconnaissance américaine?
Je suis nominée.
Non, mais vous serez dans la liste des nominés.
Je vous l'apprends. Non, mais en fait, on ne sait pas. En fait, on ne sait pas encore.
Non, mais la question, c'est important.
Ah, tout d'un coup, ça m'a surpris. Je me dis quoi?
Non.
Parce que pour l'instant, non, rien n'est défini.
Non. La question, c'est est-ce que c'est important d'être connu en Amérique?
En fait, le film est sorti la semaine dernière aux États-Unis. Au début, c'était des petites salles. Maintenant, de plus en plus, le nombre de salles a augmenté. Donc, en tout cas, le public est vraiment très chaleureux et reçoit bien le film. Donc, ça, c'est important.
Mais quand on sort le film,
물론 다 중요하겠지만
tout est très important, la réception du public aux États-Unis, en France, en Corée.
이기적으로 생각해요.
Mais moi je suis très égoïste en fait.
아주 이기적인 기준점을 갖고
Donc,
있어요.
Donc ma référence en fait c'est moi. C'est, il faut que ça me plaise, il faut que le film m'amuse parce qu'en fait en général quand je tourne, je veux faire un film pour moi. En fait, je fais vraiment un film pour moi pour que moi je suis content du film et que je suis satisfait, que je sois satisfait. Mais les producteurs bien sûr, ils n'aiment pas du tout quand je dis ça.
Et justement pour conclure, vous, ce qui est important, c'est le final cut, le droit de regard final sur le film. Ça vient peut-être de votre enfance, vous avez vu ces films censurés d'ailleurs.
En Corée, pendant la dictature militaire, il y avait la censure. Donc c'est seulement au début des années 90, quand il y a eu la démocratie, que la censure a totalement disparu.
Donc,
j'ai connu en fait les deux périodes, donc lorsqu'il y avait la censure et quand il n'y avait plus la censure. Donc je sais à quel point c'est précieux l'expression de liberté. Et il n'y a pas que la censure en fait politique, il y a aussi la censure des studios, donc la censure liée en fait au budget du film, et ça c'est vrai que c'est beaucoup plus c'est très spécial parce qu'il n'y a pas que moi, c'est tous les artistes en fait, il va y avoir une expression de liberté totale, mais parfois on est un peu auto-censuré, mais heureusement j'ai eu de la chance, les 7 films que j'ai fait ont tous eu la director's cut, donc c'est vraiment toutes les versions finales que moi j'ai voulu, donc j'ai beaucoup de chance.
Je rappelle que Parasite a fait en Corée 10 millions d'entrées et 13 millions pour The Host. Merci beaucoup, Bong Joon-ho. On vous laisse rejoindre votre public. On va écouter Lizzo avant de retrouver nos invités français. Merci beaucoup.
Bitch, I mean, who would wanna hide this? I will never, ever, 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 ever be your side chick. I put the singing single, ain't worried about a ring on my finger, so you can tell your friend, shoot your shot when you see him. It's okay, he already in my DM. Why men great till they gotta be great? Don't text me, tell it straight to my face. Best friend set me down in the salon chair. Shampoo press get you out of my hair. Fresh photos with the bomb lighting. New man on the Minnesota Vikings. True hurts needed something more exciting. Bum bum be dum be dum bum be. I'ma hit you back in a minute. I don't play tag, bitch, I been it. We don't fuck with lies. We don't do goodbyes. We just keep it pushing like aye aye aye. I'ma hit you back in a minute. I don't play tag, bitch, I been it. Keep it pushing like aye, aye, aye. Why men great till they gotta be great? Don't text me, tell it straight to my face. Best friend set me down in the salon chair. Shampoo press get you out of my hair. Fresh photos with the bomb lighting. New man on the Minnesota Vikings. True hurts needed something more exciting. Bum bum be dum be dum bum.
Nous sommes en direct à Lyon, Laurent. On est
oui,
en direct.
En direct à Lyon,
rue du premier film.
C'est pour ça qu'on parle en direct avec Bertrand Tavernier, notamment.
Alors, on avait annoncé la guest star, Thierry Frémaux, qui est là. Et entouré de quatre réalisateurs, Delphine Glaise.
Bonjour.
Bonjour. Bertrand Tavernier, bonjour.
Bonjour.
Tony Gatlin, bonjour.
Bonjour.
Robin Campillo, bonjour.
Bonjour.
Comme Thierry doit partir très vite, Thierry, c'est le système ici, c'est de montrer des films du patrimoine à un public, mais des films restaurés. Qu'en est-il de la restauration? Comment ça se passe? Est-ce que c'est compliqué? Est-ce qu'il y a moins d'argent? Est-ce que...
Alors d'abord, on restaure les films, il faut que tout le monde le sache, comme on restaure les tableaux,
oui.
Comme on restaure même des partitions de musique. Là, au moment où nous parlons, La Roue, le film d'Abel Gance, est en train d'être montré avec l'Orchestre National de Lyon. Et ils ont recomposé aussi les musiques de Neguer et de tous ces musiciens du début du siècle et des années 20. Et techniquement, on repart, on va chercher le meilleur élément. Il n'existe pas toujours. Oui. Moi, j'adorerais qu'on retrouve... J'ai toujours trouvé que les copies de Potemkin étaient un peu floues, un peu... J'adorerais qu'on retrouve le négatif caméra de Potemkin.
Oui.
Donc, on va au matériel le plus précis, le plus précieux. Et puis ensuite, aujourd'hui, avec les technologies numériques, on scanne, on peut faire ce qu'on veut. Une restauration, ça reste une interprétation. Parce qu'on peut sur-restaurer parfois, il ne faut pas.
Oui.
Par exemple, les poils caméra. Les poils caméra, il faut les garder. Ça fait partie du film, puisqu'ils étaient au filmage. Alors qu'on peut quasiment tout enlever, tout se permettre. Donc, ceux qui restaurent, et en France, on a de très très beaux labos, font ça magnifiquement. Alors après, oui, on a la chance d'être dans un pays qui contribue financièrement. Oui. Et quand je dis un pays, c'est un pays, mais c'est aussi le cinéma lui-même. On rappelle que le système français génère sa propre économie. Ce qui parfois lui vaut quelques froncements de sourcils du côté de Bercy, parce qu'il voit pas pourquoi tout cet argent ne reviendrait pas à l'État. Mais il est, entre guillemets, au cinéma, cet argent du cinéma. Et jusqu'à il y a très très peu, le CNC avait fait un effort global assez puissant pour permettre la restauration, la numérisation, parce qu'il y a aussi plusieurs étages. Il y a des films vraiment en mauvais état qu'il faut restaurer. Il y a des films, il faut simplement les préserver et leur redonner la possibilité d'être montrés dans une salle ou à la télévision, de retrouver une existence. Et là, la source financière de l'État, enfin du CNC, est en train de se tarir. Alors, on est tous en train de leur dire oui. Ne faites pas ça, continuons.
Je trouve que c'est une sottise, comme un certain nombre de choses que fait Bercy, c'est une sottise à très courte vue. Puisque c'est de penser que c'est de l'argent gâché qu'on leur donne. Mais la restauration fait travailler des laboratoires, ça fait travailler des techniciens, ça fait travailler ensuite des sociétés qui reprennent les films en DVD, qui les fabriquent, qui les lancent. Il y a toute une économie qui sort de là. C'est des films qu'on peut enfin montrer quelquefois à l'étranger, dans des festivals, dans toutes des... Et on peut faire redécouvrir des pans entiers du cinéma français, comme ça, dans tous les pays. Donc, c'est pas un financement perdu. C'est pas de l'argent qui est jeté en l'air, comme dans certains autres cas.
Concret, hier soir, à la remise du prix Lumière, ces documents hyper émouvants et troublants sur la Tour Eiffel, Thierry Frémaux. Mais ça, c'était le grain était merveilleux de
oui,
ça.
Oui.
On y est alors,
L'absence de grain. Oui, c'était...
De 1900. Hein.
1900, le plus gros fort, le plus large format jamais inventé, l'a été aussi par Louis-Auguste Lumière.
5 ans après l'invention du cinématographe.
Il passe du 35 au 75.
Ouais.
Et à l'époque, d'ailleurs, ça avait été un semi-échec, la projection. Très très compliqué parce que il fallait une lumière tellement forte que la lampe brûlait parfois le film. Et là aussi, grâce au numérique, alors avec Bois d'Arcy, ce qu'on appelle Bois d'Arcy, c'est les archives du film du CNC, et avec la famille Lumière, on restaure ces films-là. Et oui, puis il y a tous les films Lumière restaurés, ça commence par ça. Le film Lumière qui a été proposé au public il y a maintenant 3 ans, il y aura un deuxième qui arrive l'année prochaine, puisque c'est les 125 ans de la naissance du cinématographe, on va d'anniversaire en anniversaire, nous. C'est notre culture, c'est notre histoire, c'est notre. Imaginons tout à coup que on enlève les rayons des bibliothèques municipales les œuvres de Stendhal, de Marcel Proust et même des cinéastes contemporains, parce que il faut aussi. Jacques Doyon, qui était là avec nous, dit mais moi je sais pas où sont mes films. Jane Fonda, vous vous souvenez quand elle est venue l'an dernier, a produit Coming Home, le film de
LHB
sur le Vietnam. Elle ne sait pas, elle sait pas où elle... Donc, depuis, elle s'est lancée dans une belle croisade pour justement retrouver les éléments.
Vous, réalisateur, c'est quelque chose qui vous soucie, par exemple, Robin Campillo. Ce serait important que vos films soient vus encore des centaines d'années. Alors, vous vous préoccupez de ça?
Je ne sais pas si je pense vraiment à mes films, mais c'est vrai que, par exemple, je sais que, par exemple, sur le premier, Les Revenants, moi aussi, je ne sais pas trop ce qui est advenu. Il n'y a pas de copie numérique. Enfin, c'est un problème qui se pose tout le temps. Et là, le fait qu'effectivement, même en numérique, qu'on s'inquiète de ce que vont devenir les films, parce que le numérique, ce n'est pas une protection non plus. Ça l'est même sans doute moins par moment. Mais c'est vrai que cette question, parce qu'on parle de patrimoine et c'est un mot qui est un peu sinistre, mais en réalité, c'est la vie des films. Et quand on voyait les images des Frères Lumière, c'est la vie qu'on voit sur l'écran. Et c'est quand même, c'est extrêmement impressionnant.
C'est la jeunesse du cinéma.
Mais oui, mais.
Ce sont eux les jeunes.
Oui, mais c'est la présence, c'est l'actualisation. De ce cinéma, et pour moi ça c'est très très important. Quoi.
Lumière privilégie les films en salle, Tony Gatliff, ouais, votre première projection, c'était un drap tendu, et c'était un Chaplin?
Oui, moi j'ai eu la chance d'avoir un instituteur qui aimait le cinéma, et donc pour nous forcer à apprendre à lire et écrire, il nous a amené dans les salles, dans la salle de classe, avec le cinéma. Et donc comme si le cinéma était arrivé dans mon terrain vague. Ouais. Et il avait vraiment mis un drap sur le tableau noir, fermé les rideaux et tout ça. Et il nous a projeté pour la première fois de notre vie des choses mouvantes, un film mouvant dès le départ, le générique sur le tableau, sur le drap du tableau. Et déjà, le générique était un rêve. Parce que le film commence, quand on connaît rien, quand on voit qu'on connaît pas le cinéma, c'est un rêve, un générique. Parce que ça bouge, ça monte, ça descend, ça va à droite, à gauche. Et c'était un film qui nous avait projeté pour nous montrer la France. C'était Jeux interdits. Alors, on a découvert la France, on a découvert le cinéma, on a découvert la grosse vache, excuse-moi, parce que dans Jeux interdits, il y a un petit vacher qui se promène avec une grosse vache, et on n'avait jamais vu en Algérie des grosses vaches comme ça. Donc c'était un rêve.
Et vous, Delphine Gley, c'est quoi votre premier souvenir de cinéma?
Si vous saviez, Non mais alors moi j'avais voulu faire plaisir, c'était une maîtresse d'école qui devait me garder en après-midi, ce qui n'était pas classique, et j'avais peur de choisir un film, j'avais pas trop le choix, j'étais dans le Nord, il n'y avait pas de ciné-club, j'ai pris ce qu'il y avait, mais je voulais pas paraître ridicule, et j'ai dit je veux voir Flash Gordon, et j'ai pleuré pendant toute la séance, ça a été monstrueux, et je me suis plus jamais, je retourne au cinéma, je devais être en CE1 je pense, donc voilà.
Vous, Bertrand Tavernier, votre place favorite, on le sait grâce à l'introduction de cette nouvelle édition de Amis Américains, c'est au troisième ou au quatrième rang? Pourquoi pas au premier?
C'est trop près. C'est trop près. Puis au premier rang, il y avait je crois, des cinéphiles, des gens qui notent, qui prennent des notes. Ça, alors là, pour moi, c'est
insupportable.
Avec des lampes électriques, c'est pas. Moi, quand je suis dans un film, je suis dans un film. J'ai pas besoin de noter. J'ai heureusement une assez bonne mémoire. J'arrive à me souvenir des répliques, des scènes, des plans. Mais même parfois, il faut revoir, parce que quelquefois, un film vu il y a 10 ans, 15 ans, et là, ce festival, c'est formidable, ça m'a obligé à j'ai découvert des films, mais j'en ai aussi revu, et revoir les films de Coppola, de Kayat.
Oui.
De Kayat, ça a été une expérience formidable. J'avais des souvenirs parfois qui étaient faux,
oui.
Qui étaient faux, ou qui avaient été. Un film, c'est quelque chose de tellement fort, que ça vit en vous, et quelquefois le film bouge, le film dont vous vous souvenez, c'est pas tout à fait le film que vous avez vu, mais un livre aussi, un livre aussi, et c'est souvent aussi passionnant de redécouvrir, ça n'est pas une frustration. C'est quelquefois une confirmation que vous aviez senti quelque chose de fort, mais que vous n'aviez pas trouvé totalement le moyen de le cerner.
Bertrand Tavernier, est-ce que vous saviez que Robin Campillo avait joué dans L'Argent de Bresson?
Ah,
non, j'ai pas joué dedans. Enfin, ma main a joué dedans. Et c'est marrant parce qu'il y a un jeune journaliste chinois qui m'a retrouvé la photo, qui me l'a envoyé. Et effectivement, je devais avoir un rôle. Et pour moi, c'était extraordinaire d'être sur le tournage avec Bresson. Et au moment où on a tourné le plan, Bresson m'a fait sortir du plan parce qu'il me trouvait trop maigre. Et c'était il y a longtemps. Hein. Et c'est vrai que ça a été une déception. Et en fait, l'assistant a quand même tenu à ce qu'il fasse un gros plan de ma main. Mais je tremblais tellement qu'on a fait genre 45 prises ou un truc comme ça. Ce qui, évidemment, au bout de la 3e, c'est dur. Mais alors, au bout de la 20e, c'est hyper humiliant. Et en même temps,
c'était toujours la même main.
C'était toujours la même main, mais je tremblais comme... Si vous voyez le film, c'est dans la prison, je tends une cassette audio avec une pin-up dessus. C'est une cassette sexuelle ou je ne sais quoi, je ne sais pas quelle était l'idée. Et c'est vrai que ça a été... Mais en même temps, quand même, avoir la chance de voir Bresson... Et ce que j'ai retenu de ce truc-là, c'est comme il y avait beaucoup d'acteurs très jeunes, etc., il y avait plein de monde, il y avait une effervescence sur le tournage, une joie d'être ensemble autour de ce monsieur qui avait plus de 80 ans quand même à l'époque. C'était extraordinaire, quoi.
Bertrand Tavernier, est-ce que être cinéphile et cinéaste, ça aide et ça peut bloquer aussi?
Oui, peut-être. On posait la question à Léoto. On disait, mais est-ce que le fait de lire énormément, vous êtes un énorme leader, ça vous bloque quand vous écrivez? Il dit que, est-ce que admirer des jolies femmes empêche de faire l'amour? Non, mais c'est...
La question mérite d'être posée.
Hein, oui, non, mais... moi, je pense que ça me nourrit. Je pense que les films nourrissent mon imaginaire. Mais quand je commence à faire des films, j'oublie que je suis cinéphile. Je fais une séparation. À ce moment-là, je suis dans le film. Mais avant, inconsciemment, sans doute, je pense que mon amour pour les paysages, pour de tourner en extérieur très tôt, dès que la fête commence, dès le juge assassin... Ça vient de mon amour pour le western, ça vient de quelque chose, d'une frustration que je ressens en France où il n'y a pas tellement de films où les paysages jouent une importance énorme. D'ailleurs, ils jouent si peu d'importance que j'ai toujours tourné dans des endroits où il n'y avait jamais eu de cinéaste. Donc personne n'y avait été, si bien la Haute-Vallée de Haut, de l'Ardèche, dans les paysages d'Ardèche, dans des endroits de Bretagne. Alors donc voilà, et là ça vient des films d'Elmer Davis, d'Anthony Mann, de John Ford, et ça, la volonté de cerner un décor, ça vient sans doute de ça, le goût du partage aussi, le goût de la collectivité, ça vient du crime de Monsieur Lange, mais aussi, il n'y a pas que ça, mais aussi de Jean Villard, mais aussi du TNP, mais aussi d'aventures comme ça, qui vous nourrissent tout autant, et qui ont une influence tout aussi grande.
Denis Gatliffe, depuis ce premier écran, ce drap tendu, et après votre cinéma, vous avez appris le cinéma en le regardant?
J'ai appris le cinéma avec le théâtre. D'abord, j'ai été comédien, et j'ai découvert le théâtre avec Claude Régis et Roger Blin, et c'est vraiment... en découvrant le théâtre, j'avais la soif de savoir. Et donc j'ai lu énormément de pièces françaises, américaines aussi, Édouard Albee, Gisgal. Et donc j'ai vraiment été très très curieux, et puis j'ai découvert un art que je connaissais pas. Et je crois que le théâtre m'a beaucoup beaucoup aidé et donné une culture que je connaissais pas.
Un coffret de vos films sort en ce moment.
Arte édition.
Vous avez l'impression d'avoir appuyé sur une note sur laquelle personne n'appuyait dans le cinéma?
Absolument. Surtout sur non, j'ai mis les pieds. J'ai mis plutôt les pieds dans un endroit que personne n'allait, là où personne n'allait. Et donc j'ai commencé mon premier film, donc Les Princes, qui a été aidé par Gérard Lebovici et Guy Debord. C'est grâce à eux que le film existe.
Il est présenté ici.
Et c'est un film qui montre un terrain vague. Il n'y avait pas de terrain vague dans le cinéma français dans les années 70. C'était très rare de voir des cinéastes traverser des terrains vagues avec leurs caméras. Parce que d'abord, ils avaient peur, et en plus, c'était pas du tout leur champ de jeu. Et donc, moi, c'était chez moi. Et j'ai commencé par Les Princes, et c'est l'histoire d'un garçon qui est pris entre plusieurs cultures, un gitan, et qui ne sait plus d'où il est, il est ni sédentaire, ni nomade, et il traverse la terre à vagues, et c'est ça mon film.
Delphine Glaise, vous présentez beaucoup de films ici, vous êtes très fidèle à ce festival. Comment on passe la passion du cinéma? Comment on présente quelqu'un, un film?
Alors, je présente les films avec l'idée que je vais transmettre une histoire d'amour, c'est-à-dire pourquoi, dans le film que je vais présenter, je sais souvent... alors, quand Bertrand Tavernier est dans la salle, en fait, il faut se dire qu'il y a... Là, on a envie d'être ailleurs, on se dit, oh là là, mais il va... Mais... Si, bon. Mais on a tellement envie de l'épater. Mais non, et en même temps, moi, je ne présente rien de Wikipédia, je me documente à peine, mais je vois le film et je me dis si comment j'aime ce film à cause d'un plan, à cause d'un son, à cause... Et je, voilà, j'essaie de transmettre un enthousiasme sur... une petite chose sur un à côté, sur une bifurcation, quelque chose qui me fait entrer dans le film, proposer une porte d'entrée.
Voilà, exemple, j'adore. L'incinérateur de cadavres que vous avez présenté.
L'incinérateur de cadavres.
On va écouter un tout petit extrait juste pour cette voix tellement, tellement belle et mystérieuse.
Něžná. Zde na tom požehnaném místě jsme se před 17 lety seznámili. Všechno je tu jako tenkrát, jen snad až na tohohle leoparda. Toho tehdejšího už asi dávno laskavá příroda.
Non, mais le tournage a été commencé durant le printemps de Prague et s'achève quand les armées du pacte de Varsovie envahissent le pays. Ça, c'est un, je pense que c'est un élément important
très
pour raconter
important.
Un film des années après.
Bien sûr, mais ce qui est le plus frappant, c'est la proposition d'un cinéma organique. C'est-à-dire qu'il y a, à cette période-là, mais dans ce film-là précisément, un récit à partir du corps qui est mais d'une modernité qui est absolument dingue. C'est-à-dire des associations que... Voilà, c'est une sorte, c'est un Buñuel pragois. Enfin, c'est fou. Moi, je trouve ce film épatant. Mais que j'ai découvert pour le festival.
Ah oui.
Moi, j'adore choisir des films que je n'ai jamais vus. Quand je vois la liste, je prends généralement un cinéaste mort avant 20 ans, dont une copie existe en Super 8. Enfin, je me dis, oh, bah, lui, je vais essayer de... Et je tombe amoureuse de ce que je vois, et voilà.
Robin Campillo, on était très surpris de voir que vous présentiez La Tour Infernale.
Oui.
C'est-à-dire que ça a l'air tellement loin de ce que vous faites...
Ah oui, vous trouvez, oui.
Faites pas l'étonner quand même.
C'est comment vous dire, oui. Enfin, après, moi, j'ai choisi justement. Alors moi, j'ai choisi des films que j'ai vus autrefois que je n'ai pas revus depuis.
Oui.
Et justement, enfin, quand on disait les films changent et on change à travers les films, je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui est très important. C'est vrai que moi, j'avais une passion pour les films catastrophes quand même dans les années 70.
C'est un des premiers avec le Poséidon. Hein.
Alors, j'adore le Poséidon, vraiment.
Oui.
Mais il n'était pas dans la liste.
Non.
Mais et donc, ce qui se passe, c'est qu'en fait, moi, ce que sans doute ma mère m'a transmis, c'est deux choses. C'est la peur de la mort et la jouissance de la peur, ce qui est assez paradoxal. Et en fait, c'est les films, donc moi, les deux films que j'ai choisis, c'est Zombie de Romero,
oui,
et La Tour Infernale, qui sont deux films que j'adore. Et c'est vrai que La Tour Infernale, rien que les affiches, moi, comme l'affiche du Poséidon, j'adorais parce que c'était des affiches où il y avait, le casting était énorme dans ces films. Voilà, dans celui-là, par exemple, vous avez Fred Astaire, vous avez Jennifer Jones, il y a tout l'ancien Hollywood qu'on met au
O.J. Simpson.
Et qu'on met dans ce film, etc. Et qu'en fait, c'est un film où on voit l'humanité occidentale qui a construit des choses, des tours de Babel en réalité, que ces tours se détruisent. Donc le risque qu'on prend comme ça à construire, et que je trouvais qu'il y avait un truc très beau dans cette idée de se demander mais qui va mourir de toutes ces stars.
Et comment
c'est-à-dire que c'est comme le film de Hitchcock où l'actrice meurt dans Psychose, oui. L'actrice principale qui est une star meurt au bout d'une demi-heure. Il y a un peu ce jeu de qui, mais là c'est un jeu de qui parce qu'on est passé dans la culture de masse et donc il y a quelque chose qui est très fort dans le film, dans cette impression de le destin des gens, et en même temps bon, le film est très, par moments très moralisateur parce qu'évidemment c'est plutôt les couples adultères qui y crament, et il y a quand même quelque chose qui est, mais j'adore cette idée de cette construction d'une machine de mort que je trouve assez fascinante et assez jouissive en réalité, et ça me rassure toujours un petit peu.
Cinéaste français à l'honneur ici, c'est André Cayatte. Tiens, on va l'écouter, Bertrand Tavernier, avant de revenir avec vous.
Je trouve que la justice française est une justice incohérente parce qu'elle met bout à bout des choses qui ne vont pas ensemble. Ne vont pas ensemble un jury populaire d'une part totalement libre et d'autre part un président arbitre qui devient juré. Ce sont des choses qui se gênent, qui se contrarient, et la justice française est vouée à l'erreur judiciaire ou à l'abus de pouvoir ou au déni de justice parce que sa constitution même est mal fondée.
Ça vous énerve quand on dit que Kayat était un cinéaste à thèse, vous vous dites que c'est un cinéaste de conviction.
De constat, c'est un mot qu'on colle, quand on collait ses adversaires à un moment, comme on dit maintenant de certains films, les films de Stéphane Brisé, de Lurie, etc., on dit les ennemis, les tenants, les gens qui ont toujours viscéralement détesté le cinéma social, c'est ma condamnation, disent que c'est sociologique, une fois qu'ils ont mis. Donc on met un terme qui peut parfois s'appliquer à un film, mais qui est à la fois réducteur et faux. Oui, il y a des éléments dans Kayat, mais la frontière entre la thèse et la conviction, elle est parfois ténue. C'est parce que c'est quelqu'un qui croit. Mais je veux dire, Lang, quand il disait qu'il voulait faire un film contre la peine de mort, on peut dire qu'il faisait un film à thèse. Là, un grand nombre de cinéastes américains, et personne ne sait, ont abordé certains sujets. De faire un film contre le lynchage, de faire un film, on pourrait dire aussi que ce sont des films à thèse. Et Kayat, il y a une conviction, il y a une conviction démocratique chez quand même un homme qui, avant d'être cinéaste, s'est engagé pour les républicains espagnols, s'est battu, a écrit deux livres pour attaquer Blum et la faiblesse du soutien du gouvernement français aux républicains espagnols. Et c'est un homme dont la conduite pendant la guerre à la Continentale a été assez exemplaire, puisqu'il était contraint d'y travailler grâce à un chantage de Greven, puisqu'il était prisonnier évadé, sans papier. Et c'est vrai qu'il y a un certain nombre de ses films, et souvent écrits par Charles Spaak, qui parlent comme peu de gens ont parlé de la société française. Je veux dire, il n'y a personne... Il est le seul à montrer une déportée.
Le retour
chez elle. C'est la première fois qu'on voit physiquement une femme qui revient de Dachau. Là, il le montre, là. Et il montre aussi une famille française autour d'elle qui a imité sa signature sur un document.
Pour capter un héritage.
Pour capter un héritage et qui veut qu'elle légalise le document. C'est pas un sujet banal, ça.
Ce qu'on veut dire, c'est peut-être que ce sont ces films les moins complexes qui ont eu le plus de succès. Oui. Et on s'aperçoit que les films les plus complexes, c'est-à-dire ceux vraiment qui dépeignent ces réalités-là, ont été un petit peu méprisés.
Mais non, Nous sommes tous des assassins, qui est un film très complexe, ça a eu un énorme succès. Il y a eu
Mourir d'aimer, par exemple.
C'est les films d'après, les films en couleur, voilà. Où c'est un moment...
C'est vrai, l'irruption de la couleur pour Kayat, c'est pas forcément...
C'est pas... Sauf pour Œil pour Œil, qui est un film très, très original, mais quand même, personne n'a parlé de l'antisémitisme comme lui. Il y a été frangeux. Le personnage de l'antisémite de Balpétré dans Avant le déluge est unique dans le cinéma français. Unique. Quelqu'un qui voit dans le fait qu'il ait fait 5 ans de prison pour collaboration avec les Allemands, qui voit la mainmise d'un complot juif qui le maintient là, on pense à Céline, vraiment, c'est formidable. Il parle des dérives de la police, très très fortement, dans le dossier noir. Il parle aussi d'un Paris qui va disparaître dans les films français. Il parle d'un Paris de bidonville, d'un Paris de taudis, d'un Paris où les gens dorment à 5 dans la même chambre. Et on n'arrête pas de dire, dans Nous sommes tous des assassins, combien il y avait d'assistantes sociales là. Qu'est-ce qu'il y avait ? Il y avait des éducateurs, il y avait des professeurs. Donc voilà, moi je trouve que c'est pour comprendre la France... De la libération, etc., je pense que c'est un cinéaste absolument incontournable.
André Kayat, donc, vous, j'imagine, Tony Gatti, vous avez vu beaucoup de films. Vous présentez d'ailleurs Le Parrain. Qu'est-ce qu'il y a de plus important à dire sur Le Parrain ?
Parce que j'avais une histoire similaire avec un acteur extraordinaire qui s'appelait Laurent Terzieff,
oui.
Et qui voulait mettre en scène Un Indien cherche le Bronx. Et il m'avait pris en audition, et donc je devais faire le rôle d'Al Pacino. Et donc c'est par lui que j'ai appris qu'il y avait un acteur italo-américain, un tout petit, brun, dans le genre, un genre de blé d'art, comme ça, sicilien, et qui faisait un tabac à New York, et voulait absolument faire cette pièce-là au théâtre Montparnasse. Et donc, de là, c'est arrivé, de là, donc on n'a pas fait la pièce parce que Laurent Terzieff n'était pas crédible en indien, cherche le Bronx, et puis on n'a pas fait la pièce, mais dès que le film est sorti, je me suis intéressé au film et à Al Pacino. Et j'ai compris pourquoi la Paramount ne voulait pas la prendre.
Delphine Glaise, pour conclure, est-ce qu'il y a tous les films que vous avez vus ici, que vous avez présentés, qu'est-ce qui vous reste en tête? Est-ce qu'il y a un plan, une scène d'un film?
J'ai découvert un film de Bertrand Tavernier que je ne connaissais pas il y a quelques années, qui s'appelle Les Enfants Gâtés, qui est devenu un de mes films. L'année dernière, j'avais présenté un film, je crois que j'ai présenté Le Retour d'Al Ashby, et j'avais dit, voilà, ça fait partie d'Al Ashby et Les Enfants Gâtés contiennent les deux plus belles scènes d'amour du cinéma pour moi. Et j'avais découvert, et donc j'avais parlé évidemment d'Al Ashby, mais surtout de cette scène d'amour extraordinaire avec Christine Pascal dans Les Enfants Gâtés, qui est un film merveilleux que j'ai déjà dit d'ailleurs une fois à Bertrand, que j'ai découvert ici, mais j'ai découvert aussi, j'ai découvert 1000 films, mais cette scène d'amour, ce film et cette scène d'amour. Bon.
Même question, Robin Campillo, est-ce qu'il reste une image de ces films-là?
Enfin, moi, c'est en redécouvrant Zombie, justement, de Romero, excusez-moi, que j'ai vraiment...
Bonjour, à l'essentiel.
Non, mais parce que c'est vrai que j'avais... En fait, j'en avais gardé un bon souvenir, parce que j'avais une vieille cassette VHS que je voyais en boucle, etc. Et en fait, j'avais oublié quand même le début, qui est extraordinaire, qui commence par quelqu'un qu'on réveille dans un studio de télévision, qu'on réveille comme ça, la personne se réveille, et quelqu'un lui dit, on est en plein cauchemar. Et je trouve ce début extraordinaire. Et ce qu'on suit après, on est sur un plateau de télévision et les gens se disputent. Un scientifique pragmatique qui dit ces zombies, il faut leur tirer dans la tête parce que sinon il n'y aura pas de possibilité. Et un type en face qui essaie de défendre l'humain et que on est dans une panique. Et tout de suite, le film est complètement, alors qu'on ne voit pas un seul zombie, on est dans un moment de panique, de vertige que je trouve incroyablement beau, quoi. Vraiment.
Merci beaucoup à tous les quatre. Bertrand Tavernier, Delphine Glaise, Tony Gatliff, Robin Campillo. On vous laisse les clés du générique. Vous avez le texte devant vous. Vous pouvez le dire ensemble. Chaque phrase, on lance la musique. Je vous fais signe.
C'est une émission inspirée par tous les films de cinéma.
Il y a des réalisateurs et des acteurs.
Il y a aussi des scénaristes et des chefs opérateurs.
Les prises de vue sont des prises de son.
Sporto Cantès a écrit la musique du générique.
Tony. Les morceaux ont été choisis par Muriel Pérez.
Ophélie Vivier s'est occupée de la préparation.
C'est une émission réalisée par Laurane Thomas et Claire Destacan.
Elle est produite et présentée par Christine Masson et Laurent Delmas.
Et moi, Bertrand Tavernier, j'y étais. Mais les autres aussi. Et vous étiez aussi.
Et moi, Delphine Glaise, j'y étais aussi, Bertrand.
Et moi, Tony Gatliff.
Et moi, Robin Campillo, j'y étais aussi. Ouais.
Merci.